Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans la curiosité. C'est du lundi au jeudi, c'est de 20h à 22h. Ça va Sidonie?
Ça va très bien Thomas, salut à vous. Les curieux au programme, l'histoire de la pâtisserie à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de pâtisserie qui se déroule à Lyon, ce sera fin janvier. Alors pourquoi la Madeleine, par exemple, a une forme de coquille Saint-Jacques? Pourquoi le baba au rhum est-il alcoolisé? Qui a inventé la galette des rois? Et pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur? Curieux et gourmand, vous allez vous régaler.
Je croyais que c'était une semaine détox après les excès des fêtes.
Pas non. Du tout, c'est reparti.
Ah, on est reparti, ok. Et puis on va découvrir aussi l'histoire d'un clan, d'une famille corse qui a dominé la France et l'Europe. D'après vous, au sommet du règne de Napoléon, combien de rois, de reines, de princes et de duchesses comptaient les Bonaparte? Réponse tout à l'heure sur RTL. Mais tout de suite, on vous emmène donc dans les coulisses d'un succès planétaire, Notre-Dame de Paris.
Il est beau comme le soleil, ma merveille, mon homme à moi.
RTL.
Désiré, je suis un homme dédoublé, désiré. Entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute, je suis un homme normal?
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir Richard Cocciante.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Tallard.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux.
À tous les deux, vous êtes auteur, producteur de la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui se joue jusqu'au 8 janvier à Paris, avant une tournée dont on reparlera tout à l'heure. J'ai dit comédie musicale. Et juste
oui,
avant l'émission, vous m'avez dit, Richard Cocciante, que vous.
Non, parce qu'on
vous dites spectacle musical. Pourquoi
on l'a toujours appelé spectacle musical.
Ouais.
Parce que justement, lorsqu'on a commencé à écrire, Luc et moi, on voulait faire.
Luc Plamondon et vous,
hein. Luc Plamondon et moi,
ouais.
C'est ça, oui. Et. On ne voulait pas aller vraiment dans le sens de la comédie musicale. La comédie musicale, c'est léger. La comédie musicale, c'est parler, chanter.
Oui.
Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de tout chanter d'abord, avec un sujet lourd, un sujet, disons, intéressant et fort à débattre, à décrire.
Oui.
Et on voulait faire un opéra d'aujourd'hui, avec tous les critères d'aujourd'hui, la musicalité qu'il y a aujourd'hui, la manière de chanter aujourd'hui, voilà.
Et avec un succès planétaire, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le mot, c'est pas un vain mot, Nicolas Tallard, il a été joué ce spectacle musical dans combien de pays, dans combien de langues?
Il a été joué dans près de 20 pays, après on a arrêté de compter, je pense qu'on a parcouru presque tous les continents, peut-être qu'il nous manque l'Australie et l'Afrique, on a 9 langues et on vient de signer pour le projet de la langue chinoise.
Avec donc plus de 11 millions de spectateurs depuis la création du spectacle en 98, c'est ça?
Oui, depuis 98, effectivement, on a dépassé les 11 millions de spectateurs.
Richard Cocciante, quand vous avez composé les premières mesures du temps des cathédrales, la chanson qui ouvre Notre-Dame de Paris, j'imagine que vous ne pensiez pas que ça allait avoir un tel succès, ou alors peut-être que si.
Non, vous êtes tombé sur la chanson qui m'a donné le plus de doutes.
Ah oui.
Je l'ai écrit d'abord 10 ans, comme d'ailleurs plusieurs morceaux de Notre-Dame de Paris. Je l'ai écrit avant, 10 ans avant qu'on commence avec Luc. Et le temps des cathédrales, ça a toujours été un problème pour moi. Vous savez, on a des doutes personnels. Et je me suis toujours dit, c'est un petit peu trop simple, cette chanson. Je pourrais faire quelque chose de plus complexe, tout ça. Bon, c'est comme ça. C'est là. Mais, de toute façon, lorsqu'on compose, c'est bien qu'on n'imagine pas de faire un succès. C'est très important. C'est très important.
D'avoir l'humilité, c'est ça?
Non, une expression artistique. Je crois que la grande qualité de Notre-Dame de Paris, c'est qu'on a voulu, Luc et moi, écrire quelque chose parce qu'on avait plaisir de l'écrire.
Quelque chose qui vous plaise à vous, déjà.
Parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire, une expression artistique, voilà. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé à la fin avec l'œuvre en main et aucun producteur ne voulait le produire.
Alors, on racontera ça tout à l'heure.
C'est la preuve.
Oui.
C'est
on racontera ça dans le détail parce que l'histoire, elle est savoureuse. Pardon de vous interrompre, Richard Cocciante, mais je voudrais qu'on fasse la démonstration de cette universalité finalement de Notre-Dame de Paris. Alors on va d'abord écouter Le Temps des Cathédrales en version française.
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré.
ensuite on va essayer de reconnaître quelques langues du monde entier.
Le coréen.
Bravo Nicolas Tallard, c'est du coréen.
Du sud.
Oui, Corée du Sud. Alors ensuite on a quoi?
De l'allemand?
Non, c'est du polonais ça.
Du hollandais.
Et je crois qu'on a une version japonaise aussi. André, ça c'est la version japonaise. Je reconnais pas le japonais, mais bon. Est-ce qu'il a été vraiment adapté en japonais, ce spectacle musical?
Non, on est allé au Japon. On est allé en langue française, mais on ne l'a pas encore adapté. C'est un projet. C'est un projet. On voudrait absolument qu'il existe aussi en japonais. C'est une langue merveilleuse et c'est une culture merveilleuse.
Est-ce qu'il a été plagié dans certains pays, à votre connaissance?
De nombreuses fois.
Nicolas Tallard, oui. Et là, j'ai entendu des arrangements qui ne correspondaient pas à l'arrangement original. C'est souvent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent l'œuvre, ils la refont, ils sans demander vraiment l'autorisation.
Et vous ne pouvez rien y faire?
On arrive un petit peu plus tard. On essaie de faire quelque chose, oui, absolument, de les bloquer.
Nicolas Tallard.
C'est difficile dans un marché planétaire de tout voir, en fait. Donc on a des échos, effectivement, sur Internet, mais ça s'est déjà déroulé. Donc après, effectivement, on est obligé de faire des procédures pour arrêter ces œuvres qui sont illégales, qui ne sont pas autorisées par les créateurs.
On a fait une promesse à nos auditeurs, c'est de les emmener dans les coulisses du spectacle Notre-Dame de Paris. Combien de musiciens, combien de danseurs, combien de techniciens au Palais des Congrès à Paris?
Alors, c'est 14 chanteurs qui ne sont pas tous sur scène tous les soirs, parce qu'on a 7 chanteurs principaux, parce qu'il y a 7 rôles principaux dans le spectacle, et 7 chanteurs alternants. On a 16 danseurs sur scène, 5 acrobates, 2 breakers.
C'est quoi un breaker?
Un breaker, c'est un danseur de hip-hop.
De hip-hop, c'est ça.
Il y a des musiciens aussi?
Il n'y a pas de musicien live sur Notre-Dame de Paris. Depuis la création, ça a été un choix artistique.
Absolument.
Pour avoir toujours la même qualité
de jeu,
de son et de musique.
Je crois qu'on a été les premiers d'ailleurs. Vraiment, je crois qu'il n'y a personne avant qui ait osé faire cette chose-là.
C'est la même scène parisienne. Vous revenez au Palais des Congrès, c'est là que le spectacle avait été créé en 98. Parce que ça ne pouvait pas être ailleurs? Ou c'est de la superstition? Qui sait?
Revenir à Paris, il faut revenir là-bas. Il faut revenir au Palais des Congrès. C'est ce qu'on voulait. C'était déjà un pari, hein, de revenir à Paris, Mont-Saint-Genou. Mais il fallait... je pense que le Palais des Congrès, c'est une salle qui nous a porté chance. C'est une salle merveilleuse. Ça sonne superbement bien. On voit bien de partout. Et donc, pour nous, c'était un plaisir de retourner là-bas.
Tiens,
on voit que le spectacle, en fait, a été créé là-bas, parce qu'en fait, il est parfait, en fait, dans cette salle-là. On l'a vu dans le monde entier. Mais quand on le voit au Palais des Congrès, on a l'impression que vraiment, le spectacle a été fait pour cette salle.
Et ça y est, grâce à vous, on est dans les coulisses. On va continuer de s'y balader, de savoir, tiens, comment vous avez recruté ces talents aujourd'hui pour la version 2016-2017, mais aussi en 98. Restez avec nous sur RTL.
Il est venu le temps des cathédrales.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Notre-Dame de Paris, c'est un spectacle musical qui cartonne depuis près de 20 ans dans le monde entier. La troupe sera en tournée dans toute la France à partir du mois d'avril et on vous fait découvrir les coulisses du spectacle avec Richard Cochente et le producteur Nicolas Tallard. Alors cette première version de Notre-Dame de Paris, elle s'est jouée en France de 1998 à 2005. Pourquoi vous avez attendu 10 ans pour recréer, pour remettre le spectacle à l'honneur?
Je pense qu'il y a le souci des créateurs et des producteurs de ne pas user une œuvre et de toujours la présenter sans discontinuer. On risque de lasser son public. Et donc on a fait un choix qui est particulier, c'est celui de voyager. Et donc, on a effectivement voyagé en Angleterre, aux États-Unis, en Italie et dans tant de pays. Et que maintenant, en 2016, il était temps de revenir à la maison.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on tient beaucoup à ce que le spectacle reste de grande qualité dans tous les endroits où on va. C'est le même spectacle, on ne varie pas, on ne fait pas un spectacle minimum parce qu'on va dans un pays comme ça qui n'est, hein.
Qui met moins les moyens ou...
C'est toujours la même. Ou ils ont les moyens ou on ne le fait pas.
Voilà, en fait, le spectacle qui a été créé à Paris, il s'est joué partout dans le monde. Il n'y a pas une autre version du spectacle qui s'est joué.
Donc, oui, il n'y a pas une version, j'en sais rien, raccourci qui s'est joué à tel endroit.
Non, il n'y a pas ça.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles musicaux, de comédies musicales ou de spectacles qui ont du succès et puis qui disparaissent complètement pour le reste des temps. C'est immortel, Notre-Dame de Paris ?
Vous savez, je crois qu'il y a une grande différence par rapport à tout ce qui est venu après. C'est une œuvre d'auteur, déjà. C'est-à-dire que tout est parti par l'auteur, tout est par les auteurs. On a décidé d'écrire quelque chose, et je crois que c'est la chose de base. Lorsqu'on part à l'envers, c'est là on décide de construire un spectacle, et on cherche des gens qui composent, et hein, on compose quelque chose, ça devient un petit peu artificiel. Nous, c'est vrai. Alors, ou c'était bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'on l'a fait, avec une grande passion de le faire, heureusement, ça a bien réussi. On a trouvé aussi des gens extraordinaires autour de nous qui ont fabriqué ce spectacle, comme le metteur en scène, comme le chorégraphe. Ça s'est composé d'une manière extraordinaire.
Mais quand des personnages comme Esmeralda, Frollo, Quasimodo ont été à ce point incarnés, personnifiés par des stars comme Esmeralda, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie.
Oui, alors on en parlera.
Non, Garou est devenu une star. Il chantait dans des bars, c'est ça, quand vous l'avez découvert.
Mais la question. Que presque tous n'étaient pas.
Oui,
des stars,
ils sont devenus. Sauf quelques-uns au Québec, quand même, étaient déjà connus au Québec.
Oui, mais en France,
pas connu. Mais alors ma question c'était comment vous pouvez choisir ceux qui reprennent ces rôles. Vous voyez ce que je veux dire.
C'est risqué, après, ça que vous voulez dire.
C'est compliqué 10 ans après. Comment choisir la nouvelle Esmeralda par exemple.
Oui, mais la nouvelle Esmeralda, le nouveau Quasimodo qui est extraordinaire. C'est un travail assidu, c'est-à-dire qu'il faut s'y mettre, il faut choisir des personnages, il faut les faire grandir quelquefois aussi.
Mais vous avez vu combien de chanteurs par exemple pour choisir les nouveaux.
On fait des castings énormes, mais à la fin. Vous savez, par exemple, l'histoire du Quasimodo, c'est une personne qui l'a fait d'abord, il a un don, au-delà de chanter d'une manière extraordinaire, il a un don spécial. Il l'a fait d'abord en italien.
Ouais, parce qu'il faut préciser qu'il est italien.
Il est italien.
Vous parlez d'Angelo Del Vecchio, l'interprète actuel.
Il est italien. D'abord, il l'a fait en italien. Puis après, il l'a fait en anglais. Et c'était parfait. Et on lui a demandé, bon, essaye en français. Il l'a fait en français et c'était parfait aussi.
Alors, on va l'écouter en français. Angelo Del Vecchio, il chante « Dieu que le monde est injuste ». Là, on est aujourd'hui, 2017. On peut aller le voir sur scène encore à Paris jusqu'à dimanche et puis ensuite en tournée à partir d'avril. Et la version 98, Garou, évidemment, ça donnait ça.
Dieu que le monde est injuste, lui Seigneur, et moi vaut rien. Il te donnera la lune, toi qui ne demandes rien.
Richard Cocciante, quand vous composez, quand vous écrivez ces chansons, vous pensez forcément à la tessiture, à la famille de voix de celui qui va l'interpréter ?
Non.
Non, c'est vrai ?
Pour ma voix, je la chante d'abord, que ce soit des chansons pour femme ou pour homme ou pour un baryton ou pour un ténor, je la chante moi-même, je l'expérimente. Je crois que c'est une des choses aussi très importantes. L'écriture d'une mélodie n'est pas toujours valable, n'est pas toujours chantable. Je pense qu'elle peut être très belle, c'est très intéressant, mais l'expression chantée, c'est quelque chose de particulier. Et moi, en tant que chanteur, je la chante d'abord.
Vous la chantez comment ?
Ben, je la chante, je chante tous les airs. J'ai chanté Vivre, par exemple, pourquoi pas ?
Ça donne quoi ?
Ça donne Vivre pour tous ceux qu'on aime, aimer plus que l'amour même. Donner sans rien attendre en retour, aimer comme la nuit aime le jour, aimer jusqu'à mourir d'amour, jusqu'à mourir d'amour.
Je pense que ça peut marcher.
On ne sait pas.
C'est très bon.
Ce que vous venez de faire, on ne sait pas. Vous savez, on ne sait pas.
Ce que vous venez de faire là, merci de ce cadeau, merci de ce cadeau, Richard Cogetti. Quand vous avez voulu convaincre un producteur, en l'occurrence le papa de Nicolas Tallard, Charles Tallard, vous avez fait ça exactement?
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit au début, personne ne voulait venir écouter parce que c'était quelque chose qui ne marchait pas. Charles Tallard est venu nous écouter. Il est dans l'appartement de Luc, il y avait un piano, et il est arrivé en disant « j'ai vraiment pas l'intention de produire une œuvre comme ça, mais j'écoute, et si j'aime, pourquoi pas ?» Et on s'est mis au piano, je me suis mis au piano, il y avait Luc à côté de moi, et on a chanté toute l'œuvre, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'ai chanté. Luc, il ne chante pas, mais il m'a aidé. Il m'a aidé dans le fait psychologique.
C'était plus long que l'œuvre actuelle.
Oui, plus long.
Combien d'heures?
Et je pense que c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a convaincu grâce à ce qu'on a fait, et pas par une organisation technique autour qui nous a aidés. C'est venu après. L'important, c'est que l'œuvre existait déjà, avant les arrangements, avant les chanteurs, avant tout ce qui est venu après.
Alors, Notre-Dame de Paris, c'est un groupe qui va partir en tournée en France. Ils vont retrouver cette aventure unique vécue par la première troupe. Pas mal de surprises, des frayeurs, des gags aussi, on vous les raconte dans La Curiosité. A tout de suite, les curieux.
C'est une histoire qui a pour lieu.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vivre pour tous ceux qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, aimer comme la nuit aime le jour, aimer jusqu'à mourir d'amour, jusqu'à mourir d'amour.
Voilà, si vous nous rejoignez, extrait du cadeau que nous a fait Richard Cocciante.
J'aime pas m'écouter.
Il y a quelques minutes.
Bah, vous êtes le seul.
Nous, on aime. Voilà, qui interprétait l'une des chansons, évidemment, qu'il a créée avec Luc Plamondon pour le spectacle Notre-Dame de Paris, création en 1998. Le spectacle est en ce moment à Paris, revient au Palais des Congrès jusqu'à dimanche, jusqu'au 8 janvier. Et puis ensuite, grande tournée en France à partir de début avril. La première date, c'est où déjà? C'est Toulouse.
C'est à Toulouse,
Toulouse, le Zénith de Toulouse, 7 et 8 avril, si je me souviens bien.
7, et puis ensuite. 8, 9, ouais, c'est ça. Voilà. Après Montpellier, Nice, voilà. Marseille,
toute une série de
Lyon,
toute la France,
de belles
la France,
et grandes, ouais. Et grandes dates. Alors, ce qui nous a donné envie de raconter l'histoire et les coulisses de Notre-Dame de Paris, c'est tout simplement l'une de nos journalistes, Caroline Dang, qui est allée voir le spectacle en famille juste avant les vacances de Noël. Elle nous a dit notamment qu'elle avait été bluffée par la nouvelle Esmeralda. On écoute.
La nuit est si belle et je suis si seule. Je n'ai pas envie de mourir. Je veux encore chanter, danser, rire. Je ne veux pas mourir, mourir avant d'avoir aimé. Vivre pour celui qu'on aime.
Iba Tawaji, qui est Esmeralda, c'est une chanteuse très connue au Liban.
Oui.
Elle a une voix formidable. Vous assistez encore aux représentations, Richard Cocciante?
Je l'assiste.
Oui,
vous y allez tous les
au spectacle, tous les soirs.
Je les vois. Quand je peux, je regarde le spectacle,
ouais.
J'écoute comment ils chantent et je les corrige quelquefois. Parce qu'il faut rester toujours dans. On est très strict. On ne veut pas qu'ils s'inventent quelque chose de différent.
Il ne faut pas improviser.
Absolument pas. Il y a une écriture qui est bien là. L'écriture est là. Et il faut respecter cette chose. Donc, oui.
Il y a le public qui chante aussi beaucoup parce que tout le public connaît les chansons. Vous les corrigez aussi, non,
pas. Le public, il chante très bien.
C'est vrai.
Il chante toujours très bien.
Il a raison.
Mais Nicolas Tallard, c'est vrai que c'est ce qui est marquant quand on va voir Notre-Dame de Paris. C'est effectivement le public qui reprend la plupart des chansons en chœur. Et puis Standing Ovation, c'est pratiquement tous les soirs comme ça.
C'est tous les soirs, oui. Et, enfin, effectivement, le public reprend... le temps des cathédrales. À la fin, il y a un rappel qui est sur le temps des cathédrales. Le chanteur, qui est Richard Charret, il n'a pas besoin de chanter. Il se laisse la voix au public.
En 98...
Et c'est comme ça depuis le début. Depuis 98. Partout.
Depuis le tout premier festival.
Partout, dans tous les pays.
Ça a toujours marché. Il y a eu des auditions particulièrement longues avant de lancer le spectacle en 98. Pourquoi ? Il fallait créer deux troupes, c'est ça ?
Non, c'est parce qu'il fallait comprendre déjà, il fallait trouver les chanteurs, il fallait expérimenter un petit peu des choses avec eux. J'ai chanté plusieurs choses avec les chanteurs, on a expérimenté des morceaux, on cherchait aussi la typologie vocale, la typologie, le caractère des personnages. Donc ça a été un travail long pour ça. Et il y a des épisodes qui sont assez amusants. Par exemple, lorsque Garou est venu pour la première fois, lui, il voulait chanter Frollo. Il voulait chanter le rôle de Frollo.
Le prêtre.
Donc, le prêtre. Et il nous a chanté très bien ce rôle de Frollo. Mais Luc et moi, on s'est regardés et on a dit, mais c'est pas Frollo, c'est Quasimodo.
Ça a dû lui faire plaisir.
Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, il dit, je veux pas faire Quasimodo. Parce que
je suis trop beau. C'est pas possible.
Mais vous voyez, c'est expérimental. On prend les personnages, on voit comment ça marche. Et voilà.
Mais c'est intéressant, ça veut dire que Garou n'a pas eu le choix finalement. S'il voulait faire partie de ce spectacle musical, il devait faire Quasimodo. Mais s'il refuse.
On l'a convaincu, et il s'est convaincu. Il a écouté les chansons, il a chanté, il s'est senti capable et surtout c'était formidable. C'est un personnage introverti, non, c'est un personnage qui chante de l'intérieur. Ouais. Et Quasimodo, c'est ça. On cherche toujours ça, des personnes qui chantent de l'intérieur, tandis qu'un Gringoire, c'est une personne qui doit chanter de l'extérieur.
Gringoire, c'est le poète narrateur.
Complètement.
Moi, j'étais pas à la création de Notre-Dame de Paris, mais c'est sûr que Notre-Dame de Paris, c'est l'exemple même d'une collaboration artistique réussie. Il y a quelque chose de magique. Vous parliez, on l'a imposé, le rôle de Quasimodo. Non, tout s'est mélangé ensemble. C'est les auteurs des chansons, de la musique, le metteur en scène Gilles Maheu, les chorégraphes. En fait, on a l'impression que c'est un tout. Notre-Dame, quand on nous dit c'est quoi le succès, on ne peut pas différencier les chansons de la chorégraphie ou de la mise en scène. C'est un tout.
Est-ce qu'il y aura des surprises pour la dernière au Palais des Congrès, Nicolas Tallard ?
Ça, c'est réservé aux chanteurs et aux danseurs. Nous, on ne les organise pas, les surprises.
Parce qu'ils font des gags sur scène, c'est ça ?
On essaye d'empêcher ça, mais en général, sur une dernière, c'est difficile de les empêcher.
Il y en avait eu quelques-unes, Richard Cotiente, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la dernière au Palais des Congrès en 98.
Je ne me rappelle pas exactement, mais je sais qu'il y en avait une, oui.
Ouais. Je crois que Hélène Ségara avait mis des préservatifs sur le lit dans lequel elle chante une chanson avec Patrick Fiori. Il y avait ça. Elle s'était mise une araignée, une fausse araignée évidemment, sur la joue pendant que Garou chantait la chanson de fin qui est quand même très triste. Donc il avait eu une espèce de fou rire, c'est ça ? Vous en souvenez d'autres ?
Je m'en rappelle pas, non.
Ça, c'est un peu stressant, non, pour les producteurs ?
Non, mais on essaye de faire que ça soit quand même un peu sérieux, parce que les gens, ils sont venus voir un spectacle, des émotions.
Et ce sont de grands artistes, en plus. Donc
voilà. Qu'on n'exagère pas. Enfin, il ne faut pas qu'ils exagèrent.
Évidemment, ça, c'est un message pour la troupe actuelle, qui va donc partir en tournée. C'est un Barnum qui va s'élancer sur les routes. On va vous raconter aussi, anticiper sur ce qui va se passer à partir du mois d'avril, une tournée qui durera jusqu'en décembre. La dernière date est prévue à Bordeaux. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent.
RTL.
Bohémienne, ville ne sait le pays d'où je viens.
La curiosité est un vilain défaut.
Il est venu le temps des cathédrales.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre-Dame de Paris, c'est un spectacle hors norme, un spectacle musical, un succès à la française, comme on les aime, à la curiosité. On vous guide dans les coulisses, les secrets de ce spectacle avec nos invités Richard Cochiente et le producteur Nicolas Tallard. On va continuer de découvrir ces coulisses qui nous passionnent, que vous nous ouvrez. Alors vous partez sur les routes de France au mois d'avril. Je rappelle que la tournée commence à Toulouse, ça sera les 7 et 8 avril. Ensuite, il y aura Montpellier, Nice, Marseille et plein d'autres villes. C'est un immense barnum à organiser, Nicolas Tallard. Vous ne dormez pas ?
Si, il faut dormir. Ouais, là, effectivement, c'est beaucoup de monde sur les routes. On est près de 70 personnes à voyager.
Dans des camions ?
On ne voyage pas tous dans des camions. Mais, ouais, oui, effectivement, des cars, mais des trains. Et effectivement, c'est beaucoup de monde à travailler en création. On est plus de 100, je pense, au moment de la création des spectacles.
Est-ce que les artistes dorment dans des autocars aménagés? Ils ont leur petite vie comme ça sur la route?
Ça dépend en fait, ça arrive. C'est surtout les techniciens qui doivent démonter et puis remonter le lendemain matin dans une autre ville. Donc effectivement, eux, ils dorment dans des bus. Tandis que les artistes, souvent, ils sont dans des hôtels.
Il faut ménager leur voix, c'est ça.
Exactement, il faut les cajoler.
Ouais. Alors on a entendu la version 1998 de Belle. On va maintenant écouter un extrait de la version d'aujourd'hui.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour. Elle, quand elle danse, qu'elle met son corps à jour. Telle, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame?
Dans le trio Richard Cotienté, il y a un pilier, il y a Daniel Lavoie qui est resté, c'est ça?
Oui, absolument, Daniel Lavoie est resté, toujours formidable, comme avant.
Il est revenu.
Il est revenu, oui, d'accord, il n'est pas resté.
Oui, il est revenu. Est-ce qu'on peut imaginer, moi c'est un rêve de fan, hein, qu'il y ait des apparitions surprises d'un Garou, d'une Hélène Ségara au cours de cette tournée?
C'est difficile à l'imaginer en fait, mais ça peut être une surprise, mais c'est difficile à l'imaginer parce que on raconte une histoire en fait. Le spectacle, c'est vraiment raconter une histoire, et les spectateurs, quand ils vont voir le spectacle, ils rentrent
Il ne peut pas y avoir un guest qui a rien à voir avec l'histoire.
Voilà, c'est
évidemment
pas un concert où on dit j'ai un invité là, et non, il faut vraiment raconter l'histoire, et c'est cette émotion-là qui transparaît, qui plaît au public. Mmh. Et donc c'est difficile de l'imaginer comme ça.
Il y a les chanteurs, il y a, alors je vais dire leur doublure, le mot n'est pas joli, c'est pas le terme que vous employez.
On dit alternant.
Chanteurs alternants. Pourquoi? Parce qu'il faut justement qu'ils reposent leur voix, ou parce qu'ils ont d'autres engagements ailleurs? C'est quoi la logique?
Mais d'abord, il faut qu'ils reposent leur voix, oui, une fois par semaine au moins. Mais après, il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut se sentir pas très bien, donc il faut toujours quelqu'un qui soit là pour remplacer, pour que le spectacle continue.
Est-ce qu'il y a eu dans le premier spectacle des moments de stress, de trouille, des chutes, des choses comme ça dont vous vous souvenez, Richard?
Il y en a toujours, par-ci par-là, ça se passe. C'est assez courant. Et c'est assez courant aussi, même on a eu des spectacles où on a dû remplacer une Esmeralda pendant le spectacle. C'est-à-dire à la fin du premier acte, on a dû changer d'Esmeralda parce qu'elle ne se sentait pas bien.
Le public s'en est rendu compte?
On fait une annonce quand même.
On le dit.
Mais vous dites quoi dans ces cas-là?
Spectacle, mais ça arrive.
Ça vous est arrivé là?
Ce sont humains.
Pardon.
Pas sur la production à Paris, mais non. C'est arrivé sur une tournée précédente, il y a 2 ans.
Oui, puis en Italie aussi, ça s'est passé, absolument.
Moi, j'ai même vu disparaître un acteur pendant qu'il chantait. Il est tombé de scène, et on regardait, on était sur un jour de captation, et puis je regarde la caméra, et puis plus de chanteur. Il est tombé de scène. Mais il a continué à chanter.
Sans qu'on le voit.
Sans qu'on le voit.
C'est un joli réflexe quand même, c'est pas mal.
Mais c'est ça le spectacle.
C'est le spectacle
vivant. C'est comme ça.
Et puis Richard Cotienté, on a malheureusement, il nous reste encore un peu de temps. Il faut que vous nous racontiez une jolie anecdote sur. Vous nous l'avez raconté pendant qu'on écoutait la version 98 de Belle, donc il faut aussi l'offrir à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants des artistes au Palais des Congrès il y a une dizaine, quinzaine d'années?
C'était la période de Noël, donc il y avait tous les enfants d'Hélène Ségara, il y avait mon fils, il y avait le fils de Daniel, enfin il y avait plusieurs enfants, et on s'est dit on va faire un petit spectacle avec eux. Et on a organisé, on les habillait en personnages. C'était incroyable à voir parce qu'il y avait une Esmeralda qui était grande et puis un Camimodo tout petit. Mais c'était merveilleux, c'est un souvenir.
Mais ils connaissaient les chansons par cœur, à force de venir voir le spectacle?
Bien sûr, à leur manière, ils le chantaient, bien sûr.
Donc il y a une relève, là, vous avez vu des talents déjà émerger ou pas?
Oh, il y a beaucoup de bébés Notre-Dame.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Oui.
Ce succès de Notre-Dame de Paris, ça a relancé les spectacles musicaux en France parce que c'était un peu morne-pleine dans les années qui précédaient.
Ça a même lancé,
ça
non, les spectacles.
Complètement ouais. Fait naître ah ouais. À nouveau.
Il y avait eu Starmania quand même. Il y avait eu Starmania.
Alors Starmania, c'était 20 ans avant.
20 ans avant. Hein,
c'était formidable. C'était l'œuvre la plus belle qu'il y avait à l'époque. 20 ans avant. Et par contre, ça n'avait pas lancé une et nouvelle oui. Chose. Notre-Dame, lorsqu'elle est arrivée, ça a créé un nouveau secteur. D'un seul coup, on s'est vu arriver des vingtaines de comédies musicales. Chaque année, il y en a des quantités. Ça a créé une nouvelle manière de faire le spectacle, une nouvelle manière d'utiliser les chanteurs, chose qu'il n'y avait pas avant. C'est la première fois que ça se passe.
Merci beaucoup, merci encore Richard Cochente, merci Nicolas Tallard, bon vent,
merci à vous.
Bon vent à vous, bon vent à la tournée. Donc au Palais des Congrès à Paris, c'est jusqu'à dimanche, je crois que c'est complet, mais bon, on l'annonce quand même. Et puis surtout, il y a la tournée qui démarre début avril avec toute une série de dates que vous pouvez retrouver sur rtl.fr, évidemment. Merci à tous les deux.
Vous écoutez RTL.